les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Très heureux de retrouver mon collègue de la Joute et ancien chef du NPD, Tom Mulcair. Bon matin, Tom. Je n'entends pas Tom. Je ne sais pas si Tom est avec nous. Donc, on va rétablir connexion. Ce que je voulais dire, un gros merci encore une fois à M. Paulus pour l'entrevue de tout à l'heure. Également, ce que je veux jaser avec Tom, c'est bien sûr, je veux qu'on revienne là, sur ce qui se passe là du côté de Rouyn-Noranda. Parce qu'on le sait, hein, il y a une visite qui est très attendue demain du docteur Luc Boileau. Là, pour tout faire un peu la lumière par rapport à ça, là, le fameux annexe sur l'impact là, de la fonderie Horn là, sur la population. Donc ça, c'est super super important de suivre ça présentement. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Également, ce que je veux parler avec Tom, qui était, vous le savez, là, ancien chef du NPD, mais également un ancien député libéral au niveau provincial, là, de voir la Chambre de commerce comme ça s'inscrire au registre des lobbyistes, là, contre la députée de Québec solidaire. Donc, également, là, est-ce que c'est une pratique là, qui est également très courante? Également, un autre sujet là que je veux discuter avec Thomas, et vous le savez, c'est toute la question entourant là, les cartes de membres au niveau du Parti conservateur du Canada. Et la bonne nouvelle, je pense que nous sommes en connexion avec Tom Mulcair. Bonjour, Tom.
Hey, salut, Marc-André.
Hey, content de jaser avec toi ce matin. Je m'ennuie de la joute déjà. Après, hein, c'est comme une drogue, hein. Après quelques semaines, là, on est en sevrage. Habituellement, là, on croise le fer les jeudis en fin de journée. Et là, je veux t'entendre parce qu'il y a plusieurs aspects ce matin, là, sur ce qui entoure, tout autour, là, de la fonderie Horn, là, du côté de Rouyn-Noranda. Bon, oui. L'histoire de l'annexe, M. Arruda s'est expliqué là-dessus. On attend une visite également du docteur Boileau, mais toi, comme ancien chef de parti, comme ancien député provincial, de voir que la Chambre de commerce est inscrite contre la députée là de Québec solidaire là, à Rouyn-Noranda, est-ce que tu as déjà vu ça, là? Vraiment, tu sais que le mandat, c'est un peu, tu sais, d'atténuer ses propos alarmistes là, à la députée?
C'est hallucinant ce qu'on vient d'apprendre ce matin à propos de la députée de Québec solidaire qui se fait littéralement épingler par sa chambre de commerce pour qu'elle se calme le pompon et qu'elle arrête de dire la vérité. Parce que j'ajouterais à ta liste, c'est que je suis aussi un ancien ministre de l'Environnement. Donc, le dossier de la fonderie Horn, je connais bien ça. Mm-hmm. Et si je remonte à Pierre Paradis, qui a jadis été ministre de l'Environnement du Québec, il y avait une usine proche de Sorel-Tracy qui était constamment en infraction, puis Paradis avait résolu qu'ils allaient obéir à la loi. Les Américains appellent ça « enforcement », hein, pour appliquer les lois. Et ici, au Québec, c'est une farce, très souvent, l'application des lois. Et Paradis avait fermé l'usine. J'avais le dossier Horn entre les mains, puis moi, je disais, ben, ils vont obtempérer aux règles qui sont là, sinon ça va être fermé. L'histoire a été écrite autrement. Je suis parti du ministère de l'Environnement autour du dossier, justement, du parc du Mont-Harford. Mais ce dossier-là n'allait pas rester lettre morte. Ce qui est choquant dans le dossier, Marc-André, c'est que, justement, on apprend que Arruda aurait occulté de l'information. Ils ont beau essayer de donner un spin là-dessus, mais c'est ça qui semble être sorti de ce dossier-là. Ouais. Tant mieux que le ministre Boileau y aille, mais je vais rapporter à INCO en Ontario, l'autre côté de la frontière, à peu près la même latitude, Sudbury. INCO a toujours menacé, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, de fermer l'usine si on leur imposait des règles, notamment pour le SO2. Ça, c'était les fameuses pluies acides. Finalement, c'est Mulroney, un premier ministre conservateur, qui a eu le guts de signer une entente avec les Américains pour faire le premier système de plafonnement des émissions et de droits d'échange, ce qu'on appelle cap and trade en anglais. Et il a imposé ce système-là pour le SO2. Et voilà que tout d'un coup, INCO a dépensé l'argent qu'il fallait pour nettoyer et ils ont même découvert une nouvelle filière de revenus parce qu'ils vendaient le soufre qui sortait de leur cheminée. Fast forward pour l'usine Horn, même chose. On est là, on va faire ce qu'on veut. Hey, les cancers, la maladie des enfants, la performance scolaire, leur santé pour le reste de leur vie, tant pis, on va attaquer une députée dûment élue pour lui dire de se calmer, puis on va s'enregistrer, s'inscrire, au registre des lobbyistes. Mais, hallucinant comme situation.
Non, vraiment. Mais est-ce que tu crois, là, on attend demain la visite là, du docteur Lou Boileau, directeur de la santé publique. Est-ce que c'est assez, présentement, comme réaction? Là? Si toi, tu étais au gouvernement, encore ministre de l'Environnement, là, est-ce que c'est assez juste d'envoyer la santé publique puis le gouvernement? C'est comme si, pour la CAQ, pour M. Legault, pour son entourage, t'sais, ils ont laissé M. Arruda essayer de se défendre par rapport à l'annexe. Est-ce que c'est assez comme réaction, là, présentement?
Non. Et ce qui est intéressant, c'est que les partis d'opposition, aussi éparpillés qu'ils puissent être, n'ont jamais réussi à demander des comptes au gouvernement de la CAQ. Mais on dirait que les journalistes qui commencent à fouiner des dossiers comme celui-là commencent à pousser, et là, on peut apprécier justement ce que Québec solidaire a fait dans ce dossier-là, et ça donne une certaine saveur à la campagne à venir. Parce qu'on va se le dire, Marc-André, on s'en est souvent parlé, c'était tellement facile, que ce soit Trudeau ou Legault ou Doug Ford, tu commandais chaque micro et chaque caméra dans ta province pendant 2 ans. Et tu devenais un petit peu au-dessus de tes affaires. Je dirais pas que Legault avait la grosse tête, mais pas loin. Ah, il se trouve bon. Mais là, tout d'un coup, un dossier concret comme ça. Hey, bonhomme, santé publique, là, OK? Est-ce que, dans un cas comme celui-là, ton discours économique va l'emporter sur l'environnement et la santé? Oups, alors, tant mieux pour Boileau, mais le problème, c'est que, justement, que ce soit Arruda ou Boileau, ce sont des bibittes de la machine, maintenant, ils se font absorber par la machine. Qui va avoir quel message? Boileau me frappe comme étant quelqu'un d'autrement plus indépendant d'esprit.
On le sent.
Qu'Arruda l'a jamais été.
Ouais, mais ça, c'est encore. Puis moi, ça m'a surpris aussi, Tom. Tu sais, puis probablement, tu étais aussi surpris également. C'est de voir que, tu sais, on a nommé M. Boileau comme de façon permanente. Ça, c'est correct.
Oui.
Ça faisait longtemps qu'il était là. Puis je pense qu'il fait un bon travail. Mais on a encore gardé le titre de sous-ministre. Pourtant, dans tous les rapports, là, qu'on dit, les rapports de la coroner ou de la protectrice, tout ça, c'était une des recommandations de séparer, tu sais. Mais là, pourquoi on a encore gardé ça? Puis là, encore dans le dossier de Rouyn-Noranda, ça l'aiderait probablement que si M. Boileau était totalement indépendant et n'avait pas ce titre-là de sous-ministre au ministère de la Santé.
Regarde, comparons avec une province comme Colombie-Britannique, une autre très grande province, Bonnie Henry, qui était la médecin responsable de la santé publique, elle était le boss. Le ministre de la Santé, Adrian Dix, était souvent à côté, à 3-4 mètres sur le stage, pour répondre politiquement. Mm-hmm. Mais tout ce qui s'agissait de déterminer les manœuvres et les moves à faire pour la santé publique, c'est elle qui les décidait. Et tu sais quoi? Par exemple, elle a édicté un jour, c'était le 27 mars 2020, que dorénavant, c'était interdit aux travailleurs de la santé de se promener d'un centre de santé à un autre. Oh boy! Mmh. Ça a eu un effet pour diminuer. La Colombie-Britannique a eu un beaucoup meilleur résultat que le Québec. Québec a toujours refusé de le faire. Parce que Arruda faisait partie de la machine, puis la machine disait, ça va être difficile, on va garder ça comme ça. Puis ils ont prétendu avoir fait quelque chose, mais ils ne l'ont jamais fait. Donc ça, c'est une indication que cette indépendance est nécessaire. Mais ici au Québec, cette machine-là, le ministère de la Santé et des Services sociaux, va toujours essayer de garder un grappin là-dessus.
Hey Tom, faisons ensemble un saut du côté de la scène fédérale. Jeudi, on le savait parce qu'on avait entendu des chiffres là, de la part là, des organisateurs de la course conservatrice là, qui va être le prochain chef là, conservateur, va être élu le 10 septembre. Mais avec ton expérience, tu en as fait une au NPD, tu as reporté une course, 175 000 membres
au pays.
C'est beaucoup,
C'est hallucinant comme chiffre. Et c'est étonnant. Mais c'est le parti. Ian Brody, que je connais, je dois dire que ça, c'est à peu près le gars le plus straight qui existe sur la planète Terre. Très fiable. Et solide comme le rocher de Gibraltar. Si lui donne ces chiffres-là, c'est qu'il n'y a pas de ballonné là-dedans. Par ailleurs, on a vu en fin de semaine, Pierre Poilievre continuer son œuvre. Moi, j'aime bien le courage de Pierre Paulus qu'on écoutait tantôt. Mais Paulus a dit qu'il appuyait Poilievre parce que Poilievre soutenait la loi 21. Mais Poilievre a changé son fusil d'épaule. Il s'est dit maintenant contre la loi 21. Mais Paulus trouve qu'encore une fois, c'est ben vraiment Poilievre
qui est bon. En fait, M. Poilievre n'a jamais été... Je pense que M. Poilievre, en fait, il n'y a pas beaucoup de députés à l'extérieur du Québec qui sont pour, peu importe que ce soit libéral, conservateur. Je pense qu'il disait qu'il était pas... je pense pas qu'il a dit qu'il était contre maintenant, mais ce qu'il dit au débat à Laval, je pense, c'est le fait que s'il y avait des contestations au niveau fédéral, il allait les laisser en place parce que M. Trudeau se dirige vers ça. T'sais.
Mais oui,
ça
mais reste. Paulus a donné ça comme raison d'appuyer Poilievre. Il est le seul député québécois à ne pas appuyer Charest. On se comprend là-dessus aussi. Et Charest, son opposition à la loi 21 était passablement plus claire que celle de Poilievre. Mais passons. En fin de semaine, on avait encore des Freedom Marchers, on avait un ancien soldat qui avait fini une très longue marche vers Ottawa, et Poilievre est allé le rejoindre. Mais j'ai remarqué un petit détail dans l'histoire. Un certain Maxime Bernier est aussi allé à la rencontre du soldat Top. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que je me suis demandé, c'est quand la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de Max la menace? Ça fait une boucle. Et si on regarde que Bernier a quand même réussi à aller chercher un 5% à peu près du vote des Canadiens aux dernières élections, c'est intéressant parce que transposé sur le pourcentage des conservateurs, ça voudrait dire, en gros, que ça pourrait représenter un 10-15% des électeurs ou des membres conservateurs. Donc, ce qui est intéressant avec Poilievre, parce que je ne crois pas pour une seconde que Pierre Poilievre croit vraiment que le Bitcoin, c'est la solution à l'inflation, bien qu'il a dit ça. Je ne crois pas pour une seconde qu'il est assez tordu pour croire qu'il a le pouvoir de congédier le chef de la Banque du Canada. Par contre, il est en train de s'attirer un vote qui échappait au Parti conservateur, que ce soit avec Scheer, avec qui toi tu as travaillé comme chef de cabinet, ou que ce soit O'Toole, avec qui j'ai pris un café la semaine dernière. Donc, si on regarde ça comme toile de fond, qu'est-ce qui s'est passé quand Singh et Trudeau ont signé leur entente? Ben, ensemble, ces deux-là ont appuyé le plus gros bouton snooze de la du Canada. Hein? Ils ont appuyé un bouton snooze bon pour 3 ans. On peut s'endormir. On sera plus capable de livrer un passeport. Ça va être le chaos total dans les aéroports. Il n'y a plus rien qui marche au gouvernement fédéral. C'est une catastrophe totale à l'immigration et j'en passe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné une place, un corridor assez large à Poilievre. Est-ce que les deux autres candidats principaux, qui sont pour moi Charest et Patrick Brown, on peut ajouter Leslyn Lewis, ont la moindre chance mathématique, comme toi, Marc-André, je parle avec les différents camps.
Oui, qu'est-ce que tu entends?
L'argument des gens autour de Charest demeure le même. Ah, mais tu sais que nous, on va aller chercher toutes les deuxièmes votes de Patrick Brown, et Leslyn Lewis n'aime pas vraiment Poilievre, elle aime beaucoup plus Charest, puis elle est en train de communiquer ça d'une manière soft à ses électeurs. Donc, avec ça, ensemble, on devrait pouvoir le coiffer au fil d'arrivée. À moins d'une cata, OK? À moins d'un truc meltdown total de la part de Poilievre au cours des quelques prochaines semaines, moi, je ne vois pas mathématiquement comment qui que ce soit pourrait rattraper Pierre Poilievre. Et c'est intéressant, le terme dominant s'applique non seulement en termes de ses chiffres et ses ventes de cartes, mais dominant, on l'a regardé justement à Laval sur le stage, il dominait la conversation. Sa préparation était telle. Charest, qui est très bon en débat, soit dit en passant, il avait l'air mou. T'sais, il avait pas l'air de trempé d'acier, comme l'autre. Là. On sentait que l'autre disait, regarde, mon temps est venu, mon heure est arrivée, je me suis pas essayé contre autour, j'ai peut-être bien fait parce que cette fois-ci, c'est moi qui m'en viens chercher ce truc-là. Et je pense que ça va être extrêmement difficile pour l'un ou l'autre des autres candidats de le battre.
Ben, c'est comme si, je suis d'accord avec ton analyse, Tom, puis c'est comme si dans le camp Charest, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait beaucoup de doublons, là, tu sais, qu'on n'allait pas arriver avec un chiffre de 600 000. Mais là, je veux dire, là, mané le parti, là, hier, jeudi, plutôt, ils ont fait, tu sais, même une sortie, puis c'est dans les médias, tu sais, mané, là, les campagnes peuvent réviser ça, mais le parti n'a déjà enlevé, je pense, 6 000 doublons. Fait que je pense que le chiffre de 175 000, là, c'est pas mal solide, là. Et là, les campagnes, ils le savent.
C'est à peu près ça, les doublons, la marge d'erreur dans ces trucs-là, c'est à peu près ça. 1 à 3 %. T'sais? Même s'il y a eu des fling-flang, même s'il y a eu des trucs découpés, c'est un petit pourcentage. Donc, ce qui voudrait dire, c'est même pas garanti que Charest va finir deuxième. Et si Patrick Brown est capable de rallier quand même, parce que Brown a vendu beaucoup de cartes, et s'il est capable de les faire venir voter, parce que c'est une chose de vendre une carte, c'est une autre chose de les faire envoyer. Hein? Mm-hmm. Je m'excuse, je connais trop ça.
Oh oui, c'est, puis c'est complexe, c'est conservateur, là, parce que là, tu fais ça par la poste, puis là, faut que tu mettes des pièces d'identité, faut que tu mettes ça dans l'enveloppe 1, dans l'enveloppe 2, faut que tu renvoies ça.
Combien d'heures on a attendu pour avoir le résultat dans la course d'autour? T'sais, moi, j'étais en onde à CTV, je peux te dire que je pense qu'on a fait 6,
j'espère
que
tu avais une portale.
C'était long. Mais donc, oui, c'est compliqué, mais comparons avec ce que nous, on a connu au NPD. Il y a eu quelqu'un qui a réussi à fouiner dans le système, c'était un cata, puis nous aussi, c'était des heures et des heures, mais pour des très mauvaises raisons. Donc, ceux qui font ça en ligne aujourd'hui, parce que la bonne vieille méthode, tu loues la plus grosse aréna à Winnipeg ou à Toronto ou à Montréal. Et là, tu fais ton truc, mais dans un pays qui fait 6-7 000 kilomètres de large, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire aux gens, trouve-toi une manière de te rendre à Toronto, et c'est la seule place où voter. Donc, tout le monde fait ça en ligne depuis plus de 10 ans maintenant. Tu peux quand même, en marge de ça, avoir un gros rassemblement dans une salle quelque part, chauffée à bloc. Mais à un moment donné, et il va falloir réaliser que les conservateurs l'ont compris, il faut que ce soit sérieux, crédible, parce que tu es quand même en train de choisir une personne à te devenir chef du pays.
Effectivement. Un gros merci, Tom Mulcair, ce matin. On se retrouve demain. Merci, bye-bye.
Bye.